Vous écoutez
RMC.
Bon réveil, bon début de journée avec nous dans le Morning d'RMC. Il est 6h.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Le mystère Delphine Jubilard touche-t-il enfin à sa fin ?
Son mari, Cédric Jubilard, a guidé hier les enquêteurs sur une nouvelle piste. Plus de 5 ans après sa disparition, des ossements retrouvés à Mayoc dans le Tarn restent à les identifier. Le ciel s'est déchaîné hier près de Saint-Étienne. Une tornade et des violents orages ont secoué la ville de Villars. Et Didier Deschamps et ses hommes veulent terminer le mondial la tête haute demain face à l'Angleterre.
Et peut-être enfin le dénouement dans l'affaire Delphine Jubilard.
Plus de 5 ans après sa disparition, son mari Cédric Jubilard, qui a toujours clamé son innocence, est passé aux aveux et a précisé le lieu où se trouvait le corps de sa compagne. Et Maxime Cliaruza, du service police-justice de RMC, Cédric Jubilard a donc orienté dès hier les gendarmes.
Oui, dans un champ situé à Mayoc, une commune qui se trouve à une dizaine de kilomètres du domicile des Jubilards, et c'est peu après 9h que les ossements ont été retrouvés. Deux fémurs enfouis de façon rudimentaire, ainsi que d'autres os du bas du corps, selon nos confrères de BFM TV, sur ce lieu qui n'avait jamais été inspecté par les gendarmes. Désormais, les fouilles pourraient durer encore plusieurs jours, notamment pour retrouver le reste de la dépouille, mais également les vêtements et les effets personnels de Delphine Jubilard, comme son téléphone portable. Les ossements, eux, vont être analysés à l'Institut de Recherche de la Gendarmerie en région parisienne, des analyses qui permettront dans les prochaines heures de savoir s'il s'agit bien, oui ou non, du corps de Delphine, puis dans un second temps de tenter de déterminer les causes exactes de la mort.
Et cette découverte est un véritable choc pour la famille de Delphine Jubilard, notamment son oncle contacté par BFM TV.
Je suis dévasté, complètement retourné. Le soulagement viendra certainement plus tard, mais pour l'instant, je suis vraiment effondré. Mais là, on n'arrêtera pas de se téléphoner les uns les autres. On est tous bouleversés. Pour l'instant, c'est pas un soulagement. On n'avait aucun doute sur le décès de Delphine. Je savais très bien qu'ils avaient tué. Ce qu'il faudra, c'est que quand on aura la confirmation, qu'on puisse faire la sépulture. Et tout le temps, on pense aux enfants et aux petits-enfants. Enfin, les enfants de Delphine et mes neveux et nièces. Qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'ils reverront plus leur maman, leur père, son assassin.
6h02 sur RMC, c'est une décision qui a été très attendue par la famille de Mélanie.
Cette surveillante a été poignardée à mort par un adolescent de 15 ans l'année dernière en Haute-Marne devant son établissement scolaire. Il a écopé hier de 18 ans de prison, une peine applaudie dans la salle d'audience du tribunal pour enfants de Chaumont et un soulagement également pour Evan, le beau-fils de Mélanie.
Moi, j'en suis très heureux. C'est une étape de franchie. Je considère qu'ils ont très, très bien compris le problème et la dangerosité du personnage. Je me suis exprimé à la barre et moi, Quentin, j'ai décidé de lui pardonner. Je ne compte pas me bouffer la vie alors que lui a décidé de bouffer la sienne. Et il ne mérite pas la haine ni la rage qu'il a pu susciter. Techniquement, il la mérite. Il a foutu sa vie en l'air, quoi. Moi, ma conviction profonde, c'est de faire changer les choses sur le sujet de l'accompagnement des élèves à l'école. De faire en sorte que Mélanie soit la dernière à mourir sur un coup de tête et qu'on soit la dernière famille brisée.
Deux ouvriers d'une société de travaux ont été mis en examen hier pour le déclenchement involontaire du premier incendie de la forêt de Fontainebleau. Une étincelle d'une disqueuse aurait mis le feu à la végétation près de l'Assis. L'Assis, justement, a pu rouvrir hier soir. Et Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place hier, a lancé un appel aux dons pour sauver la forêt de Fontainebleau.
RMC, il est 6h03. Une météo d'une violence exceptionnelle hier près de Saint-Étienne.
Orage, grêle, rafale de vent. Le nord de Saint-Étienne a été durement frappé. Arbres arrachés, toitures soufflé et une tornade a même parcouru la ville de Villars. Gilles, témoin de la scène.
J'ai vu toutes les tôles du magasin s'envoler, partir sur le parking de l'hôpital. Puis je voyais mon toit avec le vent, ça levait toutes les tuiles, tout ça. L'arbre rouge que j'avais, là, on voit plus qu'un petit morceau. L'arbre est carrément couché. Tout. Pour coucher l'arbre presque au sol, ça soufflait fort. Hein. Ça fait peur. Des tempêtes comme ça fait peur.
Des rafales de vent avoisinant les 116 km/h ont également été recensées à Mulhouse, dans le Haut-Rhin.
Et puis Damien, qui a vu cette tornade près de Saint-Étienne hier, sera avec nous au 32-16 dans quelques instants.
C'est un texte censé apaiser la colère des agriculteurs, mais qui continue de diviser.
Après plusieurs heures de négociations, députés et sénateurs se sont accordés hier en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi d'urgence agricole. Un compromis, Léonie Guilbeault, qui relance le débat sur les pesticides et la gestion de l'eau.
Réintroduire ces pesticides pour protéger ces cultures contre les pucerons ravageurs, pour Franck Sander, président de la Confédération des planteurs de betteraves, c'est une question de survie.
Il y aura toujours une phase où on aura besoin de produits pour nous protéger, parce que sinon c'est l'ensemble de la récolte qui peut être perdue. Donc un agriculteur aujourd'hui, il ne gagne pas grand-chose. Si en plus de ça, il prend un risque parce que un tel et tel insecte qui viendrait manger sa culture, forcément il arrêtera la filière.
Une question de souveraineté alimentaire, selon lui, et surtout de concurrence déloyale.
Et moi-même qui suis frontalier, à 20 km de chez moi, tous les Allemands utilisent l'ensemble de ces produits-là, donc je vois pas pourquoi moi, on me l'interdirait.
Cette possible réintroduction des pesticides inquiète les ONG, tout comme la question délicate du partage de l'eau et du doublement des capacités de stockage hydrique d'ici 2035. Les associations écologistes dénoncent l'esprit du projet de loi qui passe à côté des vrais enjeux, explique François Veillerette, porte-parole de Génération Future.
Il faut regarder les problèmes du futur. Enfin, ces problèmes du futur, c'est qu'il faut produire de l'alimentation pour tout le monde, mais il faut aussi produire en protégeant la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité aussi de la biodiversité.
Les ONG appellent les députés à ne pas voter le texte lundi.
Et vous avez entendu tout à l'heure au 32-16 le témoignage de David qui est maraîcher et qui était complètement vent debout contre ce texte et la forme finale qu'a pris cette loi agricole. Vous venez vous aussi nous donner votre avis, votre opinion et votre témoignage. Ça se passe au 32-16 et sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Il est 6h06 sur RMC. Didier Deschamps veut finir la Coupe du Monde sur une bonne note.
Alors oui, les Bleus ne seront pas champions du monde. La déception est grande pour les supporters, les joueurs depuis mardi et cette défaite face à l'Espagne en demi-finale. Mais le sélectionneur souhaite remobiliser ses troupes pour la petite finale demain face à l'Angleterre.
On a notre rendez-vous qui nous attend. Notre devoir à tous, c'est de tout faire. C'est le dernier de la compétition. On a ce devoir-là par rapport à chacun, par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière nous, qui sont derrière l'équipe de France, qui ont vibré. C'est pas un match amical.
France-Angleterre, c'est demain à 23h et c'est bien sûr à suivre sur RMC.
Et vous n'êtes pas tous d'accord sur le WhatsApp d'RMC. Pierre nous dit qu'il va la regarder cette petite finale. D'autres nous disent, oh, c'est bon, je laisse tomber. Vous continuez à nous envoyer vos avis au 32-16 et sur le WhatsApp 06 12 424 424.
Et la 12e étape du Tour de France remportée hier par le Belge Tim Merlier. Sa 3e victoire cette année sur la Grande Boucle. Une étape marquée par une violente chute dans le sprint massif à l'arrivée. Place à la 13e étape aujourd'hui entre Dole et Belfort. Longue de 206 km, intégral tour dès 14h sur RMC.
Merci Clément, le prochain journal sur RMC dans le morning, c'est à 6h30.
Mais tout de suite, nous accueillons donc comme promis Damien au 32-16. Bonjour Damien.
Bonjour Damien.
Bonjour.
Vous nous appelez de Roche-la-Molière, c'est dans la Loire, c'est donc pas très loin de Saint-Étienne, c'est ça? On parlait de cette tornade, est-ce que vous l'avez vue?
Ah oui.
Racontez-nous.
Ben, c'était... Pour le moment, on n'y croit pas. Non, on n'y croit pas parce qu'on entend un bruit assourdissant. Moi, j'étais avec ma compagne dans le magasin But et puis voilà, on voyait le toit bouger. Je me suis dit, putain, là, c'est cuit, quoi, c'est fini. Et en fait, on réalise pas. C'est un bruit assourdissant. Il y avait des grêlons comme des boules de pétanque.
C'est d'abord le bruit qui vous a happé.
Ouais, le bruit. Puis après, de ce qu'on voit. De ce qu'on peut s'imaginer. Et moi, je vois ça à la télé, quoi. C'est dingue.
Et alors, comment ça s'est passé, Damien? Vous êtes resté confiné à l'intérieur du magasin? On vous a dit de ne pas sortir?
Ouais, voilà, on nous a dit de ne pas sortir parce que on voyait, y a des gens qui voyaient, un bout d'enseigne partir et puis après des boules de pétanque tomber par terre. Et en fait, on voyait les arbres qui faisaient effet ressort. Et on voyait qu'il y en a qui ne tenaient pas, qui se levaient avec le sol lui-même, quoi. C'est vraiment, voilà, ça dure 2 minutes. Et après, vous sortez dehors, vous voyez des voitures retournées, des camions retournés, des antennes relais arrachées.
Et justement, ouais, voilà, pour vous, Damien, ça a été quoi les dommages, les dégâts peut-être pour vous personnellement?
Alors moi, personnellement, j'en ai pas, parce que je suis sorti tout de suite. On va dire, allez, 50 secondes avant de revenir, j'avais vu en fait derrière le magasin de l'ancienne butte un parking avec des panneaux solaires et j'ai mis ma voiture à l'abri dessous Et j'ai eu le temps de revenir. Et là, ça a été le chaos. Parce qu'en fait, on entend un bruit assourdissant, un soufflement.
Et puis, il y a quand même eu deux camions couchés sur l'autoroute A72. Ce matin encore, il y a 8000 foyers qui sont privés d'électricité. Vous n'êtes pas touché, vous ?
Non, personnellement, non. Mais d'où je réside, à 5 km, c'est comme une fin du monde, quoi. On peut appeler ça. C'est dingue.
Damien, décrivez-nous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder par la fenêtre, peut-être ce matin, décrivez-nous un petit peu le paysage, en tout cas hier soir, juste après le passage de cette tornade.
Eh ben, c'est des toitures arrachées, c'est des arbres encore couchés, des routes coupées, des impacts de grêle dans le sol lui-même. C'était dingue, quoi. Puis c'est des débris de partout, des voitures abandonnées, des voitures dans le fossé.
Vous avez réussi à vous reposer, à dormir un peu cette nuit, ou vous étiez un peu choqué?
Moi je suis rentré un peu plus tard parce que il faut savoir que ça s'est passé à 17h50 et j'ai pu rentrer qu'à 23h. Parce que toutes les routes étaient coupées. Et puis, sur le moment, en fait, vous sortez du magasin, ben, vous êtes avec tout le monde et ben, vous vous dites quoi, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Ben, je veux dire, c'est d'une force. Mais moi, en 38 ans, j'ai jamais vu ça. Pourtant, je suis fan de météo, mais ici, jamais.
Vous avez vécu la peur de votre vie, Damien ?
Ah oui, carrément. Oui, carrément. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une peur noire.
Et vous étiez avec les autres, vous discutiez, vous essayiez de vous rassurer les uns les autres?
Bah oui, puis on essayait de comprendre pourquoi lui il a le toit perforé, pourquoi lui il a la fenêtre arrière complètement il y avait plus rien, quoi. Et on voyait il y avait un grand arbre, un grand pin qui était là, mais enfin moi j'ai toujours vu, et arraché lui-même avec une grosse partie du sol avec lui, quoi. Ben, ça soulevait, quoi. C'était même pas ça cassé. En fait, ça soulevait le sol. C'est voilà. Et puis je vous dis, des grêlons comme des boules de pétanque, quoi.
Damien, parfois, alors la force de la nature que vous décrivez très bien, et parfois l'injustice face aux dégâts. Pourquoi moi et pourquoi pas le voisin? Pourquoi le voisin et pourquoi pas moi? Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin.
Merci
au 3216. Merci beaucoup de votre témoignage, Damien. Et si vous êtes vous aussi dans la région, si vous aussi vous avez traversé cette tornade, n'hésitez pas. Le 3216 est là pour vous écouter, nous aussi. Et puis on lit vos messages au WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour Vincent Chevalier.
Bonjour tout le monde.
Donc vous êtes le correspondant d'RMC dans la région lyonnaise et on va parler des vendanges qui devraient commencer très en avance le mois prochain, au début du mois prochain.
Oui, c'est le moment d'affûter les sécateurs. Les vendanges sont attendues début août, c'est du jamais vu.
On se retrouve tout de suite sur RMC, il est 6h13.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Vic Pourchet.
Excellent début de journée à vous sur RMC, il est 6h15.
RMC, le choix de la rédaction.
Et le choix de la rédaction ce matin, c'est sécateur à la main. On part faire les vendanges.
Bonjour Vincent Chevalier.
Bonjour Victor, bonjour Virginie, bonjour tout le monde.
Les récoltes seront certainement encore en avance cette année avec la météo des derniers mois. Les grappes de raisin ont pris de l'avance dans leur maturité. Les premiers vendangeurs pourraient donc s'attaquer, début août. Une précocité qui étonne même les viticulteurs, Vincent.
Oui, accroupi au milieu de ses vignes dans les coteaux du Lyonnais, Pierre Tollet saisit une grappe sur un cep d'un cépage gamay. Une grappe multicolore, signe de la véraison, ce moment où les raisins mûrissent.
À l'intérieur de cette grappe, on a des grappes à différents stades de développement, avec justement certaines grappes qui commencent à prendre cette couleur, on va dire, légèrement bleutée, enfin violet-bleu, qui est en fait la marque que le raisin devient mature et est bientôt prêt à être récolté.
Et traditionnellement, les vendanges débutent 45 jours après la véraison, un stade habituellement attendu ici fin juillet.
Là aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près une quinzaine de jours d'avance sur une année, on va dire classique, avec la particularité cette année de subir de grosses pressions par rapport à la chaleur. Ce qui fait que le sec aussi commence à arriver gentiment, donc ça serait bien d'avoir un petit peu d'eau.
Et effectivement, dans ces vignes, il n'a pas plu depuis début juin.
Mais Vincent, une telle avance, c'est du jamais vu pour la plupart de ces professionnels.
Effectivement, Basile Ricaume peut en témoigner pour ce viticulteur du Gard. Les vendanges sont pour l'instant prévues entre le 5 et le 10 août. En 25 ans de métier, c'est la première fois qu'il assiste à une telle précocité et ça pose plusieurs problèmes.
Toute la partie logistique, pour nous, ça change parce qu'il faut prévoir, il faut anticiper. Il faut également aussi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des jours de congé et partir plus tôt. Ça paraît rigolo que dit comme ça, mais c'est une vraie réorganisation dans les entreprises. Il faut préparer le matériel à la vigne, il faut préparer le matériel à la cave. Donc ça, c'est la partie logistique, mais je dirais c'est la moins perturbante. La plus perturbante, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique de la vigne. C'est-à-dire, est-ce que la vigne, le cycle végétatif s'est fait vite? Est-ce qu'on va arriver à avoir des raisins suffisamment mûrs pour arriver à faire des vins suffisamment qualitatifs? Est-ce que malgré cette vitesse-là, le cycle va se finir jusqu'au bout?
Oui, car si les très fortes chaleurs reviennent, la vigne pourrait faire un blocage, arrêter son évolution pour se protéger, ce qui, pour le coup, décalerait le début des vendanges.
Ça est difficile dans ces conditions de recruter, surtout quand la main-d'œuvre se fait déjà désirer.
Oui, dans les vignes, les habitués se font de plus en plus rares, il faut donc recruter plus. Exemple, dans le Jura, l'association pour l'emploi dans le milieu rural, Soelis, cherchait 450 personnes l'année dernière contre 600 cette année. Alors seul espoir, attirer des étudiants pas encore pris par la rentrée scolaire de septembre. Et encore une fois, beaucoup de domaines s'appuieront sur la main d'œuvre étrangère. Dans certaines régions, elle peut représenter la moitié des vendangeurs.
Alors, si cette année est particulière, la précocité des vendanges n'est pas tout à fait surprenante, Vincent.
Effectivement, depuis les années 80, le raisin est récolté de plus en plus tôt, 30 jours plus tôt qu'il y a 30 ans dans certaines parcelles, résultat du réchauffement climatique qui accélère le processus de développement de la vigne. Il faudra donc s'y habituer et s'adapter, selon Jean-Marc Touzard, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
C'est le changement climatique plus globalement qui remet en cause les relations au terroir et donc la relation entre un terroir et la qualité d'un vin. Et donc ça suppose de s'adapter, changer de cépage, de mode de conduite, de mode de technique de vinification, d'organisation des vignobles dans l'espace en changeant les parcelles, en choisissant des parcelles moins exposées au soleil par exemple.
Adaptation indispensable car au-delà de la crise climatique, la viticulture traverse aussi une crise commerciale. La consommation mondiale de vin ne cesse de diminuer, moins 14% entre 2018 et 2025.
Le choix de la rédaction signé ce matin Vincent Chevalier. Merci Vincent et puis à amis auditeurs viticulteurs. Je sais que vous êtes déjà sur le pont à 6h19. Je sais que vous nous écoutez.
Merci.
Venez-vous aussi détailler et votre situation et nous décrire les difficultés que vous traversez avant cette période de vendange. Ça se passe au 3216 et sur le WhatsApp 06 12 424 424. Il est 6h19.
Allez, 6h19, on se lève et on danse.
Allez.
Alors, je vous le dis, puisque vous n'avez pas l'image, Victor le fait vraiment.
Bah oui,
il est en train de danser, il obéit à Madonna, qui voulait faire danser le monde cet été. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son vœu est exaucé. Son album Confession 2, sorti au début du mois, cartonne. Numéro 1 au Billboard 200, c'est le classement mondial des ventes d'albums. Madonna, c'est la seule artiste à placer au moins un album en tête lors des 5 dernières décennies, parce que ça a commencé en 1984. Madonna a 68 ans et elle réussit comme personne à se renouveler. On parle des ventes d'albums, mais elle réussit aussi sur les plateformes d'écoute. Elle touche un nouveau public avec les réseaux sociaux et là, toujours un temps d'avance.
Oh, c'était ma préférée quand j'étais petit.
Alors moi, j'étais pas petite, mais c'était ma préférée aussi. Voilà ce que je peux dire. De ses premières confessions sur le dance floor il y a 20 ans à aujourd'hui, elle fait aussi appel à la nouvelle génération. Voilà, dans Confession 2, elle est notamment en duo avec Sabrina Carpenter. Et dimanche, elle fera partie du show de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Argentine, Espagne, même ça, Madonna, elle maîtrise parfaitement puisqu'elle a chanté « Don't cry for me, Argentina ». The truth is... Ça, c'était dans la bande originale du film Evita, où elle jouait Eva Perón, la femme du dictateur argentin. Et elle maîtrise aussi l'Espagne, puisque dans les années 80, elle avait enfilé sa robe de flamenco.
Merci Virginie Fulpin. Et si vous adorez Madonna, vous la retrouvez sur RMC Gold. Vous inquiétez pas, le meilleur des années 90. Il y a un petit peu de Madonna à l'intérieur. Ça se passe sur l'appli RMC, évidemment. Il est 6h22. Comme tous les jours, on va vous offrir la consultation gratuite, mais ce sera juste après le rappel des trois grands titres de l'actualité, Virginie.
Des dégâts importants après le passage d'une tornade au nord de Saint-Étienne. Des bâtiments endommagés, des camions renversés sur l'autoroute A72. 8000 foyers privés d'électricité encore ce matin. Des dégâts aussi en Isère. L'alerte aux orages est désormais levée. Bernard Cazeneuve fait un pas de plus vers une candidature à la présidentielle. « Si je peux être utile, je le serai », dit l'ancien Premier ministre de François Hollande dans un texte de 86 pages de propositions pour redresser le pays. William Saliba a joué la Coupe du Monde avec une fracture du dos. C'est une information RMC Sport. Le défenseur de l'équipe de France s'était blessé bien avant le Mondial dans un match avec Arsenal en Angleterre. Il a dû s'arrêter au bout d'une demi-heure de jeu contre l'Espagne en demi-finale.
Il est 6h23 sur RMC, l'heure d'accueillir le docteur du morning qui vient de s'installer dans ce studio. Bonjour Aurélie.
Bonjour Aurélie.
De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Mélanome, comment reconnaître ce cancer de la peau ?
Et on verra tout ça avec vous, avec vos bons conseils. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Pourchet.
Et à 6h25, c'est l'heure de la consultation gratuite avec Aurélie Gage. Chaque année, en France, près de 15 000 nouveaux cas de mélanome sont diagnostiqués. Ce cancer de la peau, qui est souvent découvert trop tard, touche aussi des personnes jeunes. Aurélie Gage, comment le reconnaître ?
Ben, c'est vrai, quand vous êtes face à une tache sur la peau, vous vous dites souvent, mais est-ce qu'il faut que je m'inquiète ou est-ce qu'il ne faut pas que je m'inquiète ? Est-ce qu'il y a une méthode simple ? Il y a une méthode simple qu'on utilise en médecine, ça s'appelle la méthode ABCDE. A pour asymétrie. Est-ce que, en fait, tout simplement, votre grain de beauté, il est bien rond, est-ce qu'il est bien symétrique, ou alors il a une espèce d'aspect d'un côté où ça part vraiment, ça bourgeonne, et de l'autre c'est un peu rond, on s'en méfie. B, est-ce qu'il a des bords réguliers ? Est-ce que c'est un, est-ce que tout autour, est-ce que c'est émietté ou pas ? Si c'est émietté, on s'inquiète un petit peu. C'est pour la couleur. Est-ce que c'est une couleur bien unie ? C'est une couleur qui est bien unie, on s'inquiète pas. Tandis que si on voit qu'il y a des zones où ça dépigmente à l'intérieur, puis ça repigmente, généralement, on s'inquiète. D, ça va être pour le diamètre. Si ça fait plus de 6 mm, alors si vous n'avez pas une règle, ce que vous pouvez faire, vous prenez un stylo, et vous savez, avec le rond du stylo, vous regardez si ça le couvre ou pas. Si ça le couvre, c'est que c'est plutôt bon. Si ça le couvre pas, ça mérite une surveillance, au moins un avis médical. Et enfin, E, l'évolution. L'évolution, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'une tache qui grossit rapidement en quelques mois ou quelques semaines, ça mérite un avis médical. Ça ne veut pas dire forcément que c'est grave, ça veut juste dire montrer cette tâche à votre médecin et peut-être que votre médecin dira « bon, c'est rien, on surveille » ou alors on fera peut-être même une biopsie.
Et comment peut-on s'en protéger ?
Alors, il y a des facteurs génétiques. Ça, jusqu'à preuve du contraire, vous ne pourrez pas forcément changer vos gènes. Par contre, la chose où on peut faire quelque chose, il faut savoir que les coups de soleil et aussi le fait de s'exposer aux UV, ça augmente le risque de mélanome. Donc là, je vais passer pour quelqu'un de un peu casse-pied en période d'été, mais il va falloir que vous mettiez de la protection solaire. La protection solaire, qu'est-ce que c'est ? Crème solaire, la règle des deux, vous en mettez toutes les deux heures et vous mettez minimum deux travers de doigts pour le visage. Ça fait pour tout le corps. Vous imaginez une bonne balle de golf. Il faut faire répéter ça toutes les deux heures. Généralement, les gens n'en mettent pas assez et c'est important de vous rappeler aussi de changer votre crème solaire puisque, comme tous les produits cosmétiques, il y a une date de péremption. Généralement, c'est 12 mois. Donc, l'année d'après, là, vous devez racheter
ce qu'on avait dans les placards en fin d'été dernier. Hop, terminé.
On jette, exactement.
Bon, c'est des bons conseils, c'est pas que vous êtes casse-pied, Aurélie Gage. Merci beaucoup pour ces conseils.
Mais c'est mes derniers conseils de la saison.
Et oui. Je peux vous dire qu'il va en mettre dans la crème solaire.
On n'oublie pas la crème solaire, Aurélie.
On n'oublie pas la crème solaire pour que je revienne à la saison prochaine, sinon ça veut dire que j'aurais pas écouté mes propres conseils.
Et vous pouvez rassurer Ludo qui nous dit qu'il a l'air en bout de course, notre ami, il a l'air un peu fatigué, docteur Aurélie Gage, ça va bien.
Mais je suis malade, c'est le seul qui l'a remarqué, tout le monde s'en fiche ici. Merci Ludo.
On a remarqué que vous aviez déjà vos tongs aussi pour partir en vacances. Ouais, voilà.
Merci docteur, et on se retrouve à la rentrée évidemment, 6h28 sur
sur RMC. Et c'est l'heure de jouer et d'accueillir Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Eric. Oui.
Bonjour, bonjour.
Alors vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous avez découvert notre mot caché ce matin?
Oui, bah, je pense que c'est le mot galégé.
Et félicitations. Bravo, Eric. Vous gagnez votre Coffee Bird, c'est la machine expresso nomade d'Aquila. Et alors vous, elle va particulièrement vous servir. Vous êtes artisan pâtissier, vous allez pouvoir vous faire des beaux mélanges.
C'est ça, tout à fait, ouais, je suis artisan pâtissier.
Vous êtes installé où?
À Landerneau, dans le Finistère.
D'accord, vous nous donnez le nom de votre pâtisserie?
C'est pâtisserie douceur chocolatée.
Eh bien écoutez, on ira et on espère qu'on y retrouvera la machine à café Coffee Bird. Merci beaucoup Eric.
D'avoir
joué avec nous ce matin et d'avoir aussi composé le 32-16. Il est 6h29, le journal de 6h30 dans un instant évidemment. Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
À l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une encore ce matin, les conséquences de l'affaire Liana.
Et un nouveau rapport accablant qui pointe du doigt, vous verrez, le manque de moyens de la justice. L'affaire Jubilar aussi, au lendemain de la découverte d'ossements, là où Cédric Jubilar dit avoir enterré le corps de son épouse il y a presque 6 ans. Et on va vous donner dans ce journal aussi les toutes dernières infos sur l'équipe de France à la Coupe du Monde.
Il y a donc de nouvelles révélations ce matin dans l'affaire Liana et toutes ses conséquences.
Oui, un deuxième rapport d'inspection pointe les délais manifestement excessifs, je cite ce rapport, et un manque de moyens également dans l'enquête sur de précédentes accusations impliquant le mis en cause Jérôme Barella. C'est l'affaire dite Rosa à Béthune dans le Pas-de-Calais, avant donc l'affaire Liana. Et en fait, Constance Bostoen, du début à la fin, il n'y a rien qui va.
Du renvoi inexpliqué du dossier de parquet en parquet aux 10 longs mois pour qu'un service d'enquête soit enfin saisi pour qu'au final la plainte soit classée sans suite sur un simple compte-rendu téléphonique. Les pratiques interrogent, d'autant que les auteurs du rapport soulignent un autre raté, technique celui-ci. En mars 2026, l'aide sociale à l'enfance signale des agressions relatées par deux mineurs contre Jérôme Barella, mais ce signalement, considéré comme un spam par le logiciel de messagerie du parquet, n'est jamais parvenu aux magistrats concernés. À ce stade, deux pré rapports ont été remis au ministre de la Justice. Un autre, global et détaillé du traitement des procédures judiciaires dans le cadre de l'affaire Liana, devrait être rendu dans le courant du mois de septembre.
On savait qu'on sous-traitait les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Ça, c'est ce que dit ce matin la procureure générale de la Cour d'appel de Lyon, parmi toutes les voix qui s'élèvent en ce moment après le réexamen, vous savez, des 70 000 procédures.
Autre affaire, et peut-être même le dénouement, près de 6 ans après la disparition de Delphine Jubilar.
Oui, puisque Cédric Jubilar, récemment passé aux aveux, a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il dit avoir enterré le corps de son épouse dans le Tarn, à savoir un champ à 10 km de leur village de Cagnac-les-Mines, où des ossements ont donc été retrouvés hier dans ce champ. Écoutez ce qu'on en dit sur place avec notre envoyé spécial Pierre Bazin.
À Cagnac-les-Mines, l'annonce de la découverte des ossements a secoué le village et ses habitants, notamment ceux qui ont participé aux toutes premières recherches, comme Jean-Louis Barraud, le premier adjoint. Il a été d'autant plus surpris qu'il connaît très bien l'endroit où les os ont été retrouvés.
On y est passé X fois. Sans penser qu'il y aurait encore enterré là, quoi, dans ce bord de bois où il y a une vieille maison en ruine. Jamais de la vie.
Près du domicile familial où demeurent des fleurs, des petits mots et le portrait de Delphine, Christophe, un voisin, confie sa stupeur face à ces nouveaux éléments. Hier, le quartier s'est emmuré plus encore dans le silence.
Dans le voisinage, on n'en parle pas. Il est temps que ça se termine. Il y a eu plein de rebondissements, de mensonges et de trahisons aussi envers la population gagnacoise qui a fait des recherches en 2020 pour retrouver le corps. Donc, qui disent enfin la vérité.
Une position que partage le maire de Cagnac-les-Mines. Patrice Norkowski espère que les dernières investigations permettront de refermer une plaie restée béante bien trop longtemps.
C'est vrai que ça a bouleversé la commune, hein, même moi-même, hein, puisque bon, je connaissais la famille. Je crois qu'on en a tous besoin d'avoir un dénouement de l'histoire, quoi, ça c'est clair.
Avancer et tourner la page, nous disent certains habitants, en espérant que l'affaire ne connaisse pas un énième rebondissement.
La liste s'allonge. Il y a bientôt plus de place, hein, sur cette liste. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui déclare sa candidature à l'élection présidentielle, mais alors sans passer par la primaire socialiste. Les orages ont fait des dégâts hier soir, notamment dans la Loire. On en parle ce matin où une tornade a traversé l'autoroute à 72 et couché deux camions au nord de Saint-Etienne, 600 interventions de pompiers, 8000 foyers sans électricité ce matin d'après la préfecture. Il y a 10 départements du sud-est qui sont toujours en alerte orange pour la canicule, c'est pas terminé. Les fortes chaleurs à l'origine d'une grosse panne de courant hier d'ailleurs à Marseille dans le secteur du Vieux-Port. Les câbles ont chauffé, explique Enedis, provoquant les fermetures des tunnels de la Majeure et du Prado Carénage. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est la réouverture de l'autoroute A6 qui était coupée depuis dimanche dernier au niveau de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne à cause de de l'incendie qui a touché cette forêt. C'était l'objectif, hein, leur ouvrir aujourd'hui pour le départ en vacances, les départs en vacances. C'est cette journée qui est classée orange au niveau national et même rouge dans la moitié est.
Justement, cette période de départ en vacances, la Fondation Vinci Autoroute alerte encore une fois sur les risques d'accidents provoqués par la somnolence au volant.
Mais écoutez ces chiffres, la fatigue responsable d'un accident sur 5 sur la route et c'est même 2 fois plus chez les conducteurs qui prennent la route fatigués ou qui ont un sommeil irrégulier. D'où l'intérêt de faire des pauses, nous dit Alexandre Thibault pour RMC.
Virginie se gare sur le parking de l'aire de repos après une demi-heure de route.
J'ai bu, j'ai mangé un truc. Le fait de plus avoir la tension nerveuse de la route, ça va tout de suite mieux. Vaut mieux arriver entier que dans une boîte, quoi.
Elle n'hésite plus au moindre signe de fatigue depuis une première frayeur au volant.
Même en conduisant, on a tendance à fermer les yeux quelques secondes.
15 minutes de pause et c'est reparti. Garée juste à côté, Marie-Noël fait la route des vacances toute seule.
J'ai de la musique en permanence. Pas très très forte, mais j'ai de la musique tout le temps.
D'autres mêlent l'utile à l'agréable pour rester éveillé.
Je discute aussi du projet d'achat d'une maison avec ma femme. Ça permet de passer le temps et avoir un bon copilote.
Mais la seule astuce qui fonctionne vraiment reste de faire une vraie pause.
Dès qu'il y a un signal de somnolence, il ne faut vraiment pas insister.
Sylvie Royan-Parola, psychiatre spécialiste des troubles du sommeil.
Il faut trouver une aire de repos, un endroit où on peut s'arrêter et sortir de la voiture, bouger un peu. On s'arrête un petit peu plus loin pour boire un café. Ensuite, faire une petite sieste, mais surtout pas continuer à conduire.
Elle précise que la sieste n'a pas besoin d'être longue. 10 minutes suffisent généralement.
Et on va vous accompagner peut-être un peu plus longtemps que d'habitude aujourd'hui. Si vous êtes sur la route et que vous êtes branché sur RMC, vous venez nous dire comment vous luttez, vous, contre la fatigue au volant. C'est pas toujours facile de s'arrêter toutes les deux heures quand on a la pression des enfants qui veulent arriver vite. Vous nous racontez tout ça au 3216 et sur le WhatsApp au 0612 424 424.
Vous pouvez aussi écouter l'intégral tour. Ce sera l'étape la plus longue du Tour de France. Aujourd'hui, 206 km entre Dole et Belfort. On arrive dans les Vosges. La route s'élève à nouveau avec le Ballon d'Alsace au programme aujourd'hui à 30 km de l'arrivée au lendemain de la troisième victoire d'étape du Belge Tim Merlier. C'était hier au sprint à Chalon-sur-Saône.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus sont arrivés à Miami dans la soirée.
Oui, ça y est, ils ont quitté leur QG de Boston à la veille de la petite finale contre l'Angleterre. Quel est l'état d'esprit des Bleus, Fabrice Ockhies, vous qui les suivez au quotidien depuis un mois?
Depuis l'élimination et la défaite contre l'Espagne, déception et tristesse se font ressentir dans le groupe France. On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose de grand, explique un cadre du groupe. Les joueurs doivent trouver les ressorts pour se relever. Didier Deschamps souhaite gagner son dernier match à la tête des Bleus contre l'Angleterre. Dans un premier temps, il était question de laisser la soirée d'hier libre aux joueurs qui avaient prévu de sortir en famille ou entre amis à Miami. Finalement, le staff a changé d'avis. L'encadrement des Bleus souhaite que tout le monde soit concentré. Pour ce match, le sélectionneur va faire tourner. William Saliba, qui souffre d'une fracture au dos comme révélé par RMC Sport, ne jouera pas, tout comme le gardien remplaçant Brice Samba, touché au mollet. Kylian Mbappé, qui est toujours à la lutte avec Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur, devrait lui tenir sa place. Comme en 2022, ce titre honorifique pourrait représenter son lot de consolation.
Le quintet, ce sera à Cabourg ce soir.
Dans la soirée, à 20h15, le 8. Et là, ce sont les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Le 8 en favori, Carnac Wood. Et l'As en outsider, Express Dark.
Merci beaucoup, Quentin Vinet. À 6h37 sur RMC, on va aller au 32-16 pour retrouver Yannick. Bonjour Yannick.
Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous vous appelez de Saint-Étienne où vous avez vécu ce qui s'est passé hier, cette tornade. Racontez-nous comment vous l'avez vécu, vous.
Bah, disons que moi, à mon niveau, j'ai vécu indirectement parce que, comme je disais à votre collègue, moi, je suis policier et je suis pas directement sur le terrain, mais je gère les équipes qui y vont. Et eux, ils ont vraiment, ils ont été au four et au moulin parce qu'ils ont été bien débordés à partir de 18h du moment que la tornade est arrivée.
Ah ouais, racontez-nous, Yannick, comment ça se passe dans ces cas-là, vous qui êtes un petit peu dans les coulisses de la police. C'est quoi? C'est tout le monde, c'est le branle-bas de combat. Vous devez gérer plusieurs interventions.
Eh ben en fait les interventions prioritaires, ça a été de gérer le secteur où la tornade allait passer, au niveau de Villars essentiellement, hein, comme vous l'avez dit. On devait assister les CRS qui eux aussi ont été impactés par leurs locaux ont été dégradés par rapport à la tornade. Donc en fait les collègues ils sont retrouvés pompiers, policiers, vraie main dans la main pour pouvoir dégager les routes, virer le matériel, le mobilier urbain qui s'était promené à droite à gauche à cause des grosses rafales de vent. Enfin voilà, ils ont pas arrêté pendant 2-3 heures.
Oui, mais surtout qu'il y avait des poids lourds couchés sur l'autoroute A72, il y avait des arbres, tout.
C'est ça, il y a les deux poids lourds qui ont été couchés par le vent. Bon, on l'a bien vu sur les réseaux sociaux, hein, on voit les deux poids lourds qui sont couchés d'un côté de la, sur la 72, mais de l'autre côté, le vent, c'est toute la végétation qui l'a, ça a amené sur la route, donc l'autoroute a été coupée dans les deux sens. Donc forcément, ben, un goulot d'étranglement au niveau des, de secteur Villard, ben, voilà, tout était en croix et plus rien ne bougeait. Donc nous, pour accéder, c'était compliqué. Il y a des collègues, ils ont dû se rendre sur une mission de service général. Ils ont mis 45 minutes pour pouvoir faire 5 km.
Et là, ce matin, on en est où?
Ah ben, les axes ont été réouverts, grosso modo. Tous les axes ont été réouverts. Ça a été dégagé les axes principaux de ce que j'ai su. Hein. Moi, je suis pas à la cellule en préfecture, hein, mais du peu que j'ai su, hein, c'est un peu rentré dans l'ordre au niveau de circulation. Tout a été réouvert. Bon, par contre, après, on voit les stigmates et les dégâts qui ont été causés. C'est assez impressionnant. Hein.
Merci beaucoup, Yannick, d'avoir composé le 32-16, de nous avoir raconté, là, comme ça, dans les coulisses de la police nationale, comment on organise une situation d'urgence dans ce type de catastrophe naturelle, comme la tornade qui a donc touché hier après-midi les alentours de Saint-Étienne. À suivre, dans le Morning RMC, le projet de loi d'urgence agricole qui a fait un pas en avant hier.
Ouais, puisque les députés ont réussi à trouver un compromis sur ce texte qui est pensé pour aider les agriculteurs, malgré les mesures sensibles qu'il contient. La gestion de l'eau, la réintroduction de pesticides interdits notamment. Bonjour Jean Burcard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du plaidoyer du WWF France, l'ONG de protection de l'environnement. Et on imagine bien que c'est une nouvelle qui ne vous réjouit pas. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques minutes.
Et si vous êtes agriculteur, le standard vous est ouvert. 32-16 pour nous dire comment vous avez accueilli la forme finale qu'a pris finalement ce texte hier, ce texte de loi d'urgence agricole. Et puis elle est là, c'est la belle bande du morning. Bonjour Antoine Salva pour la causerie. De quoi parlons-nous?
Eh bien, on va parler de la demi-finale, non, pardon. Oui, je vais revenir dans le temps. Non, de la petite finale, malheureusement, de ce mondial.
On la rejoue?
Ça sera samedi.
J'adore les petits yeux, Antoine Salva, ce matin. Anthony Morel pour la tech.
Bonjour. Peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle? La réponse est malheureusement oui, et ça commence à poser des très gros problèmes.
Peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle? C'est pas dans les projets de notre côté, je vous le dis. Allez, à tout de suite sur RMC.
À tout de suite.
Jusqu'à 7h. 5-7, le Morning RMC. Virginie Fulpin, Victor Pourchet.
Bon début de journée avec nous sur RMC, il est 6h43. Les parlementaires ont trouvé un compromis sur la loi d'urgence agricole en commission mixte paritaire. Ce projet qui avait été déposé l'hiver dernier en réponse à la grogne des agriculteurs, il contient toutefois plusieurs mesures polémiques, notamment autour de la gestion de l'eau et de la réintroduction de pesticides interdits. Mais le texte doit encore être soumis à un ultime vote à l'Assemblée nationale lundi soir, puis au Sénat mardi, en vue d'une adoption définitive.
Bonjour Jean Burcard.
Bonjour.
Directeur du plaidoyer de WWF France, l'ONG de protection de l'environnement bien connue de nos auditeurs. On voudrait d'abord évidemment connaître votre sentiment ce matin. Comment vous avez accueilli l'annonce de ce compromis qui je l'imagine, ne vous a pas mis en joie?
C'est difficile d'être mis en joie. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'on a évité le pire du pire, mais on n'a pas évité le pire. Et autant la commission mixte paritaire a réussi à supprimer quelques-unes des horreurs que le Sénat, presque par provocation, avait mis dans le texte, autant il reste des dispositions très inquiétantes sur l'eau, vous l'avez dit, sur les pesticides également. Et en l'état, évidemment, c'est un compromis que nous appelons à rejeter, puisque ce n'est qu'un compromis qui ne permettra pas à l'agriculture de relever les défis qui sont face à elle, et un compromis qui risque d'aggraver les tensions sur la ressource en eau, à un moment où on connaît tous la canicule et où les agriculteurs connaissent tous la sécheresse. Eh bien, on pense que c'est une mauvaise idée que d'aggraver ces tensions sur la ressource en eau et de créer une sorte de guerre de l'eau.
Alors, Jean Burcard, on va être plus concret. Il y a plusieurs associations écologistes, dont WWF, qui dénoncent ce projet de loi. Dites-nous précisément ce qui vous inquiète, en commençant par exemple par les pesticides, c'est ça ?
Voilà, ça c'est le débat que tout le monde a à peu près en tête. C'est la pétition qui avait levé 2 millions de signatures, plus de 2 millions de signatures l'été dernier sur le fameux acétamipride, c'est-à-dire un pesticide tueur d'abeilles, pour faire simple, et bien qui va être finalement réintroduit. Donc la pétition qui avait lieu l'année dernière est finalement balayée. Il y aura bien de l'acétamipride sur certaines cultures. Au-delà de ça, une des dispositions du projet de loi vise à suspendre la redevance pour pollution diffuse. C'est quoi la redevance pour pollution diffuse ? C'est la redevance que sont censés payer les utilisateurs de pesticides pour justement dépolluer l'eau. C'est-à-dire que normalement, c'est une redevance qui fonctionne sur le principe pollueur-payeur. J'achète des pesticides, eh bien, je paye une taxe qui permet, en quelque sorte, de diminuer, de dépolluer la pollution que j'ai provoquée. Eh bien, on va pouvoir suspendre cette redevance. Et donc, si ce ne sont pas les pollueurs qui payent pour dépolluer l'eau, qui va payer ? Et ça, c'est évidemment une autre disposition qui nous inquiète. Et puis, il y a la fameuse question du stockage, le stockage artificiel, ce qu'on appelle les méga-bassines. Eh bien, il est aussi absurde de dire qu'on est par principe contre les bassines que de dire par principe qu'on est pour toutes les bassines. Et là, dans le texte, il y a une priorité qui va être donnée aux bassines dans toute situation, alors que parfois, souvent même, les bassines peuvent être moins pertinentes que la nature, et parfois peuvent même être contre-productives, puisque les bassines peuvent permettre d'irriguer des cultures qui sont inadaptées au changement climatique.
Jean Burcard, vous les avez entendus, les agriculteurs, alors pas tous les agriculteurs, hein, c'est important de le préciser aussi, mais en tout cas leur syndicat majoritaire de la FNSEA qui dit, mais en fait, on est dans une situation économique pour beaucoup d'agriculteurs très compliquée, et ces allègements de normes, si on peut les résumer ainsi, elles vont aider aussi à la production et à la rentabilité de certaines exploitations. Cet argument-là de la FNSEA, vous le balayez ?
Pas du tout. Non, mais on est tout à fait d'accord. C'est même le problème de ce texte. C'est que ce texte veut faire perdurer un modèle agricole qui est dépendant foncièrement de l'irrigation et des pesticides. Et on veut faire perdurer pour encore quelques années ce modèle. Mais
donc,
ce modèle va dans le mur.
Quand la FNSEA se satisfait de ce texte, elle se trompe. Selon vous,
elle se satisfait de ce texte à court terme, c'est bien compréhensible, ça va bénéficier aux grands producteurs céréaliers qui vont pouvoir continuer à irriguer le maïs pendant l'été. Ça ne bénéficiera pas du tout aux autres agriculteurs et notamment aux petits agriculteurs. Et puis, dans 5 ans, dans 10 ans, quand il n'y aura plus d'eau, y compris pour ces agriculteurs-là, ils se diront qu'il est temps de changer et il sera peut-être trop tard malheureusement.
Alors, il y a des manifestations qui sont organisées demain, est-ce que vous allez y participer ?
Tout à fait, et d'ailleurs tous vos auditeurs sont invités à se mobiliser tout le week-end, les 18 et 19 juillet partout en France, le 20 juillet devant l'Assemblée nationale. Il y a également une pétition sur le site du WWF pour montrer l'importance que nous accordons à l'eau, une eau qui doit bénéficier à tous, pas seulement à l'agriculture, mais évidemment aux agriculteurs dont nous avons besoin, et nous avons besoin que les agriculteurs puissent eux aussi avoir cet accès à l'eau, mais pas plus que les autres, ni moins que les autres.
Merci Jean Burcard, je rappelle que vous êtes le directeur du plaidoyer de l'organisation de l'ONG WWF France et ce projet de loi polémique, on y revient à 7h50 dans Apolline Matin. Ce sera le débat entre la voix de gauche Cécile Duflot et la voix de droite d'RMC Charles Consigny. Il est 6h48, la bande du morning est là bien installée, mais avant de retrouver Antoine et Anthony, les grands titres de l'actualité, c'est avec vous Virginie.
Des ossements humains découverts dans le Tarn. Ils vont être analysés pour confirmer qu'il s'agit d'ossements de Delphine Jubillard. Cédric Jubillard a conduit les enquêteurs sur les lieux. Après avoir renouvelé ses aveux, c'est bien lui qui a tué son épouse fin 2020. L'électricité va coûter plus cher à partir du 1er août. Le gouvernement suit l'avis du régulateur de l'énergie qui propose une hausse de 2,5% des tarifs réglementés. C'est environ 26 euros de plus par an pour les foyers concernés. Et puis une troisième victoire d'étape pour le Belge Tim Merlier hier à Chalon-sur-Saône sur le Tour de France. Il s'impose dans un sprint massif marqué par la chute de plusieurs coureurs. Aujourd'hui, la 13e étape relie Dole à Belfort avec l'ascension du Ballon d'Alsace.
Il est 6h49 sur RMC. C'est la petite musique que vous entendez, que vous adorez. C'est celle de la bande du Morning RMC. Antoine Salva à ma gauche. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Anthony Morel à ma droite. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors, on va commencer par la causerie. Antoine, 3 jours après la défaite des Bleus en demi-finale face à l'Espagne, il faut se remobiliser parce que la compétition n'est pas terminée.
Et oui Virginie, même si c'est encore un peu douloureux de l'admettre, hein, on a eu le temps de digérer. Hein. On espère que les Bleus ont pu aussi se remobiliser car demain a lieu cette petite finale, match pour la 3e place face à l'Angleterre, battue elle par l'Argentine. Match évidemment que personne ne veut jouer, ce n'est pas Ryan Cherki qui nous dira le contraire.
Ah bon, on verra samedi 15h ou je ne sais pas à quelle heure il est le match. On verra, mais pour l'instant on n'a qu'une seule envie, c'est oublier ce qui vient de se passer. Parce que c'est dur, c'est très très dur.
15h oui, pour dur. Eux, 23h pour nous. Hein, on
bien vu Victor pour l'heure française. Bon, les Bleus sont rentrés depuis dans leur camp de base à Boston et forcément ambiance morose. Hein. Seuls les remplaçants se sont entraînés. Ensuite, le lendemain du match, les titulaires se sont contentés de faire des petits exercices vélo ou travailler en salle avant de s'envoler vers la Floride.
Et ce samedi, donc, à Miami, il va falloir se relever pour espérer finir sur une bonne note. Hein. Il faut quitter ce mondial la tête haute quand même.
Et oui, Virginie, bon, c'est pas la finale qu'ils espéraient jouer. Hein. Il y aura plusieurs enjeux demain face aux Anglais qu'ils avaient éliminés en quart de finale il y a 4 ans. Le premier, c'est bien sûr cette 3e place, sorte de médaille de bronze pour les supporters, mais aussi pour faire honneur à leur rang. Et puis surtout, finir sur une victoire, puisque ça sera le dernier match de Didier Deschamps après 14 ans passés à la tête des Bleus. Ce sera d'ailleurs son 187e match, un record pour un sélectionneur français. On peut compter sur lui pour remobiliser ses troupes une dernière fois.
C'était la dernière étape avant cette possible finale. On va jouer la petite finale du coup, mais on va la jouer.
Alors, ça c'est la motivation de Didier Deschamps. Est-ce que la France a les armes pour battre cette équipe d'Angleterre ?
Évidemment, Victor, puisque bon, la dernière confrontation, les Bleus avaient battu l'Angleterre il y a 4 ans au Mondial 2-1. Et victoire également en 2007 lors d'un match amical. On sait que beaucoup de changements sont attendus hein, dans l'équipe de départ du côté des Bleus. On peut penser que Kylian Mbappé néanmoins sera titulaire. Il voudra partir à la recherche de records. Il est le co-meilleur buteur de ce Mondial avec Lionel Messi, 8 buts. Et aussi pour la totalité des Coupes du Monde. Donc le capitaine des Bleus, on va le voir courir certainement.
Bon, on va regarder aussi un peu les adversaires. Quel est l'état d'esprit des Anglais?
Bon, c'est pas la joie non plus. Hein. Ils ont mené
face à
l'Argentine avant de s'incliner 2-1 en fin de match. L'Angleterre croyait bien à cette qualification pour viser une première Coupe du Monde depuis celle de 1966. Donc pour eux, ils ont un jour de moins hein, pour se relever. Et à entendre Thomas Tuchel à la suite du match de mercredi, c'est compliqué.
Aucun de nos joueurs ou des joueurs de la France n'a envie de jouer ce match. Ils ont tous envie de jouer la finale. Ils veulent jouer pour remporter la Coupe du Monde. Mais c'est comme ça. On a un jour de récupération en moins, mais on va préparer ce match comme des professionnels.
Un dernier match peut-être pour le capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane, 33 ans, qui ne sait pas encore s'il continuera avec le maillot anglais.
Merci. Moi, je propose qu'on fasse comme ça, on fait c'est la finale.
Ce sera la finale dans nos cœurs. Merci Antoine Salva. Anthony Morel, avec vous, on part en Chine ce matin. Pékin vient d'interdire les intelligences artificielles qui permettent de créer des petits ou petites amies virtuelles, ces applications qui font un véritable carton, mais aussi beaucoup de dégâts.
Oui, c'est un enjeu souvent sous-estimé quand on parle d'intelligence artificielle, celui de la dépendance émotionnelle. C'est-à-dire que les interactions avec l'IA deviennent tellement réalistes que pour beaucoup, eh bien, c'est en train de devenir un confident, un ami ou une petite amie dans certains cas. Et les startups, les grands groupes technologiques ont bien compris qu'il y avait un créneau et donc créent des applications qui permettent, eh bien, de générer une relation amoureuse virtuelle. Alors ça va très très loin. On va créer sa petite amie virtuelle. On peut choisir ses caractéristiques, son apparence. On va pouvoir discuter, flirter gentiment, enfin de manière plus ou moins poussée. Elle va vous faire des crises de jalousie virtuelle. Alors, il y a ça. Si vous parlez pas suffisamment longtemps, c'est un peu les Sims, mais encore plus poussé. Ça va très très loin parce qu'évidemment la façon dont on discute avec l'IA maintenant c'est hyper réaliste, évidemment. Et ça commence à représenter un danger à tel point que certains pays commencent à légiférer. C'est le cas de la Chine qui vient d'interdire ce qu'ils appellent les compagnons IA. Donc tous les grands groupes technologiques sont en train de débrancher ces applications et ça génère un torrent de réactions indignées sur les réseaux sociaux. Je vous en lis quelques-unes. Je n'arrive pas à accepter le fait que mon amoureux virtuel va me quitter pour toujours, dit une utilisatrice. Ou encore, pour moi, c'est l'homme que j'aime, je l'aime tellement fort, pourtant aujourd'hui on m'annonce qu'il va disparaître. Je ressens un vide immense. Alors ça peut prêter à sourire dit comme ça, mais en fait c'est très
dramatique.
Oui, voilà, c'est vraiment loin d'être anecdotique. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la dépendance affective. Là, en plus, en Chine, on est dans un pays où là, il y a un culte de la performance à l'école et au travail qui fait que les gens ont plus beaucoup de temps chez les jeunes générations, notamment pour entretenir des vraies relations amoureuses. Et donc, on se retrouve avec cette ersatz amoureux. Certains s'en satisfont, disent même qu'ils préfèrent ça à une vraie relation. Bah oui, il y a pas de risque de rejet. L'IA ne vous trompe jamais. Ne vous ment jamais. Enfin voilà, il y a quelques avantages, on peut le voir comme ça. Et puis d'autres se servent aussi de ces IA comme de confidents auxquels on peut déverser tous ces malheurs. C'est un peu pathétique, c'est vrai, mais je pense que dans les années qui viennent, c'est quelque chose qui va vraiment se développer, y compris en France où on a été plutôt préservé jusqu'ici.
Ouais, ça va être un vrai sujet. Merci. Je ne sais pas si je dis merci d'ailleurs.
Bon, lui, je ne dis que le messager après. Hein.
Bon, je suis merci quand même, Anthony Morel. Lui est là en chair et en os. C'est Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Salut Victor. Salut Virginie.
salut à tous. Oui, c'est pas de l'IA, c'est de l'humain. On est là et on est avec vous. Je sais pas si vous prenez de la route, des vacances. Vous y êtes peut-être déjà bison futé, voire rouge. Demain, dans le sens des départs. Et vous, vous bossez, vous partez, vous venez nous raconter au standard. On vous attend au 32-16 sur le WhatsApp RMC. Le 06-12 424 424. Et puis les orages qui ont touché beaucoup de régions cette nuit. Le quart sud-est, est-ce que ça a tapé chez vous? Est-ce qu'il y a des dégâts? On attend là aussi vos témoignages à Pauline Matin. Ça démarre tout de suite sur RMC et sur RMC Story.
5-7, le Morning RMC.